C'est Muteki de 9h à 10h sur Lazio Cagneux 102.2 FM.
Polo avec nous, Rétro Polo, bonjour.
Oui, coucou en personne. Oui, alors le nom de la chaîne a été renommé il y a quelques temps. Là, maintenant, c'est Polo entre parenthèses Warp Zone. Voilà, donc il n'y a plus vraiment de Rétro Polo. Maintenant, il y a juste un Polo tout court. Voilà.
Il y a et juste donc, un Polo tout court, ok, ça
voilà, roule. Il y a un Polo tout court et puis bah, Warp Zone pour le nom du conglomérat, on va dire, qui regroupe chaîne et convention. Et à terme, enfin, il y a des choses qui vont se rajouter sur le site Warp Zone, puisque bon, aujourd'hui, c'est vraiment le canal principal d'information de la partie convention, clairement.
Bah, ça tombe bien, puisque la convention, elle va s'appeler Warp Zone. Donc, après deux éditions de Polygone, ça devient donc désormais Warp Zone à la salle Roger Tesso de Givor.
Voilà.
Donc, changement de nom alors.
Ouais, changement de nom, tout à fait. Et même, figure-toi que je suis d'ores et déjà en train de te teaser un autre changement de nom. Parce qu'en fait, tu sais, on bosse beaucoup avec Yggdrasil. On est ce qu'ils appellent des troupes, c'est-à-dire des exposants, on va dire, chez Yggdrasil. Donc, on a tenu des stands rétro gaming. Hein. Bon, je pense plusieurs. Enfin, si, pour ceux qui ne connaissent pas Yggdrasil, donc c'est une très grosse convention sur les univers féeriques et fantastiques à Lyon, typiquement, qui a regroupé plus de 25 000 personnes à Eurexpo il y a quelques mois là, donc c'est vraiment un truc énorme qui a plus de 10 ans en fait, hein, voilà, donc c'est vraiment très chouette. Et typiquement Yggdrasil, il y a le canal, enfin les conventions principales qui s'appellent Yggdrasil, et après ils ont des conventions qui portent d'autres noms, et on s'est un peu inspiré de ça pour le nom de la convention de novembre qui portera, donc alors c'est toujours Warp Zone bien sûr, on va dire l'organisme organisateur entre guillemets, mais ça aura un nom particulier sur Lyon. On ne s'interdit pas en fait de faire des petits écarts par rapport à ce nom-là. Et même, en fait, j'ai envie de te dire, on aimerait bien aussi faire des petits événements temporaires plus de moins grande ampleur que celui qui va avoir lieu à Givor ou que les polygones à l'époque. Par exemple, en mode, tu vois, Dreamcast Party ou Famicom Party, où là, on limite peut-être à, je ne sais pas, 150 personnes ou 200 personnes. Et puis là, on fait un truc un peu monomaniaque avec une console en particulier ou un type de jeu en particulier, etc. Mais de manière plus éphémère et de taille plus réduite. Voilà, on a plusieurs idées. Mais à chaque fois, voilà, c'est un peu comme le concept de la Warp Zone dans Mario, tu vois. C'est-à-dire, tu rentres dans un tuyau et ça te fait sauter des niveaux et t'apparais dans un... Tu pop dans un endroit complètement différent du chemin traditionnel que tu dois prendre dans le jeu. Bah là, un peu à la manière du chemin traditionnel de ta vie, en fait, la Warp Zone te fait atterrir dans des endroits un peu atypiques comme ça.
Donc, il y a déjà plein d'idées. Je vais recommencer pour l'après. Mais pour commencer, déjà, on va se focaliser vite fait sur cette convention qui a l'air d'être un événement de grande ampleur. La salle Roger Tissot, c'est 500 personnes.
Alors, non, c'est 500 mètres carrés déjà, la salle Roger Tissot.
Mètres carrés, mince. Voilà, j'ai mal noté les trucs, je suis désolé.
Ouais, pas de souci. Alors, en fait, le truc, c'est que c'est marrant. Des fois, quand j'en parle, parce que je parle aussi de la convention de novembre, donc des 8 et 9 novembre, qui serait donc dans une salle de 700 mètres carrés, je dis toujours un petit peu, ouais, Givor, c'est la petite, entre guillemets, la petite convention. Donc il y a pas mal de gens qui ont tendance à penser, ceux qui ont connu Polygone, hein, je veux dire, que bah, c'est plus petit que Polygone. En fait, non, on a déjà un sacré level up par rapport à Polygone qui faisait entre 350 et 380 mètres carrés. Parce que Polygone, la salle, la cité idéale, détruite aujourd'hui, hélas, paraissait vraiment énorme vu de l'extérieur, mais en réalité, la place utile qu'on avait à l'intérieur pour exposition n'était pas très grande. Voilà. Donc on avait, voilà, comme je disais, entre 350 et 380 mètres carrés. Et là, on level up à 500 mètres carrés. Sur Givor, donc Givor sera plus grand que Polygone, et d'ailleurs c'est ce qui nous a permis d'intégrer une petite nouveauté, c'est la partie brocante, voilà, donc il y a des particuliers et des pros qui vendront du matos rétro, donc l'idée c'est pas de se transformer en foire à la saucisse avec tout et n'importe quoi, c'est vraiment de rester sur le thème, hein. Par contre ça c'est hyper important, je tiens beaucoup à ça, et aussi l'idée c'est que les shops ne prennent jamais le dessus sur le jeu. Voilà, ça restera toujours avant tout une convention de jeu, et le shop étant la partie shop étant une partie additionnelle en fait. Voilà. Pour tout ce qui est.
Il y a beaucoup de parties d'animation en plus de ça, puisque tu vas avoir c'était déjà le cas en fait à Polygone, mais là il va y avoir après le piano, ce sera un performeur à la guitare qui fera des reprises de thèmes de jeux vidéo. Explique-nous un petit peu ce qu'il y aura d'autre aussi.
Alors, sur les activités périphériques, je vais même, tu vois, me mettre sur le site, histoire de ne pas en oublier, parce qu'il y a pas mal de trucs. Donc, effectivement, en fait, Polygone 2 était sur le thème de la musique. Donc, on avait pris un pianiste qui venait de Paris, un pianiste classique extraordinaire, fan de jeux vidéo, qui s'appelle Eric Hartz. D'ailleurs, ouais, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller à taper Eric Hartz sur les internets pour regarder le gaxé. Regardez surtout sa chaîne YouTube, il y a un passage très drôle où il passe à 10 ans chez Jacques Martin à l'école des fans. Donc, c'est super marrant parce qu'ils ont été obligés de le faire passer en dernier vu que tu peux plus jouer rien derrière lui, en fait, c'est pas possible. Donc on avait Eric, on avait ben justement Harry Less à la guitare électrique qui revient là cette fois, mais qui pour le coup sur cette édition de Givor va tenir le haut du pavé puisque ça va être l'artiste principal entre guillemets, même s'il y a un autre artiste, je vais en parler tout à l'heure, mais c'est lui qui va donc faire un concert en début d'après-midi le samedi et le dimanche. Et alors quand je dis musique de jeux vidéo à la guitare électrique, c'est vrai et c'est pas vrai parce qu'il a quand même plusieurs instruments qu'il va mixer. Il n'y aura pas que de la guitare électrique, mais je ne vais pas trop en parler, ça fera des surprises. Mais il y aura notamment un instrument traditionnel, etc. Enfin bon, bref, il y aura des variétés, ce ne sera pas que de la gratte électrique. Voilà. Donc il y a ça comme activité. Au niveau des concerts, impossible de ne pas citer nos amis de chez Cyberdeus. En fait, eux, c'est des compositeurs de musique pour une console sortie en 1986 qui s'appelle la Mega Drive de Sega. Donc en fait, il y a des rock bands en fait sur des consoles des années 90, des années 80, enfin 80-90 parce qu'elle a duré longtemps dans les années 90. Donc ça, c'est un peu fou. Donc toute la performance qu'on va entendre, donc ça, c'est à 20h le samedi, et uniquement à 20h le samedi, il n'y en aura pas le dimanche. Et il y en aura même peut-être plus jamais après, ça je peux déjà te le dire, parce que c'est, en gros, ils la refont pour ceux qui ont loupé à Polygon 2. Mais c'était a priori un one-shot, donc là, c'est déjà en gros exceptionnel qu'ils le refassent, et il n'est pas certain du tout qu'il y ait une troisième, en fait. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose à voir, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe ? Toutes les musiques qu'on va entendre, alors c'est des reprises de musique de manga, des musiques de jeux vidéo réinterprétées, ça peut être des musiques de jeux vidéo qui existent déjà mais refaites. On prend un exemple, Mario Kart, il n'est jamais sorti sur une console Sega, les mecs ils t'ont refait la musique Mario Kart à la Mega Drive, tu vois, enfin sur Mega Drive. Donc ouais non, c'est dingue, mais t'as plein de trucs, tu sais, t'as même du métal et tout qui refont, enfin c'est n'importe quoi, c'est juste génial. Et donc ce qui se passe c'est que bah, c'est un set qui est pré-enregistré, enfin pas pré-enregistré mais qui est pré-programmé. Et donc, ça va être joué par la Mega Drive. Et eux, ils seront à 4 sur la scène à mimer les instruments, sachant que c'est des vrais joueurs. Donc, typiquement, il y a un vrai batteur, un vrai guitariste, un vrai bassiste et tout ça. Et donc, ils font sur leurs instruments factices les véritables patterns que tu vas entendre dans les sons Mega Drive. Donc, c'est super rigolo parce qu'ils sont habillés en costume de scène avec les cheveux longs jusqu'aux fesses et tout. Alors que normalement, enfin, il y a un gars notamment de la team qui est toujours hyper BCBG en costard et tout ça. Enfin, voilà. Habillé de manière ultra classique, on va dire, tu vois. Et donc là, bah, tu le retrouves en rocker. La première fois que j'ai vu ça, j'ai pas compris. En fait, je t'avoue, c'était un petit peu rigolo. Et il y a également une vidéo qu'ils ont fait, qui va passer en arrière-plan sur un écran géant de 4 mètres de large, qui correspond, qui est synchronisé avec la musique. Alors ça, par contre, ça sort pas de la Mega Drive pour le coup, mais c'est fait pour aller avec les musiques qu'on va entendre tout au long de la soirée. Donc typiquement des extraits de Mask ou de Cosmo Cats, si c'est des musiques de Mask ou de Cosmo Cats, etc., etc.
Mais on a le choix du roi en termes de musique inspirée du rétro gaming ou carrément intégrant du rétro gaming. Et notamment ici dans la région, il y a 2080 qui fait aussi ça. Plus loin, on a aussi un groupe que tu devrais faire venir aussi, des gars qui font des concerts avec des 3DS qui s'appelle Portal Wombat. Enfin bref,
non, mais
en
ça,
France,
ça,
on se bouge.
Antenne, ça m'intéresse évidemment au plus haut point parce que bah, le but, c'est aussi de faire tourner un petit peu les intervenants. Bah, déjà, pour pas les fatiguer parce que c'est un travail immense de préparer un spectacle comme ça. T'imagines par exemple le guitariste 2 heures de musique à la guitare électrique, sachant qu'il fait lui-même les sets et tout, c'est un boulot de dingue. Et pareil, Cyberdeus, 45 minutes de musique sur Mega Drive à composer, c'est juste insane. Alors il y en a qui ont déjà composé. Des fois ils préparent aussi des sets à partir de ce qu'ils ont déjà, mais il y en a aussi qui préparent juste pour l'événement, donc c'est un travail immense. Et de toute façon, même s'ils avaient tout préparé à l'avance, s'ils avaient déjà tout en stock, il faut faire la vidéo qui accompagne, ça ils l'ont pas. Donc,
mais ça a l'air dingue aussi, en France on a un vrai amour pour la musique de jeux vidéo.
Ouais, vraiment, ouais, tout à fait, on a énormément de très bons musiciens. D'ailleurs on avait reçu Raphaël Jeska et Philippe Vachet sur Polygon 2, donc ils sont des gens qui ont fait vraiment des jeux vidéo illustres. Philippe Vachet notamment Little Big Adventure, et puis Raphaël Jeska, il y avait Flashback dans sa version Amiga.
Il y avait Flashback, il y avait Mr. Nuts, il y avait pas mal
ouais,
de monde.
Ouais, plein de trucs, ouais, exact, de trucs, tu viens de le préciser, donc énormément de trucs. Raphaël Jeska qui est un mec génial, qui fait aussi du cinéma hein, d'ailleurs, il fait des musiques de cinéma aussi hein, sur des titres très connus. Enfin bon bref, vraiment on a des mecs extrêmement bons, ça c'est clair. Et d'une manière générale, en fait, dans l'univers du rétro gaming, au-delà de la musique, on a vraiment un vivier de personnes qui ont des compétences extraordinaires. Bah, il faut savoir que, par exemple, la NES Mini, tu vois, et la Super NES Mini, c'est des consoles qui ont été intégralement conçues en France par des Français, à Paris notamment. Voilà. Dans le seul centre recherche et développement Nintendo sur le sol européen qui s'appelle NERD, c'est un acronyme pour rigolo d'ailleurs, hein, pour Nintendo Recherche et Développement, machin. Et donc, c'est ces mecs-là qui ont fait la NES et la SNES Mini, donc les vrais officiels de Nintendo, en fait. Et il faut savoir que sur Polygon 2, on avait un des gars qui développe, enfin, qui bosse chez, enfin, chez Nintendo dans le centre recherche et développement sur la partie émulation. Et c'est notamment le gars qui fait le... Bah, c'est Stéphane Dallongy, là, on va le citer. C'est le gars qui fait le kit de développement pour Mega Drive. Car bah, tous les jeux récents qui sortent sur console ancienne sur Mega Drive, t'en as au moins 80% qui sont développés à partir de du kit de développement de ce fameux Français dont je viens de parler. C'est vraiment rigolo, le mec qui fait un kit de développement Mega Drive, il se retrouve à bosser chez Nintendo. La Mega Drive étant la grande concurrente de Nintendo à l'époque, donc c'est assez rigolo le truc. Mais comme il est spécialiste en émulation, quand les mecs de Nintendo ont vu son CV, laisse tomber quoi. Là,
il n'y avait pas voilà, trop de mal. Voilà, c'est ça. Justement, il faut perpétuer cette rivalité historique, si j'ose dire.
Voilà, c'est ça, exactement. Non, mais c'est vraiment rigolo. Et pour dire, voilà, que, enfin, il y a des compétences de ouf. Bah, notamment, on verra sur le salon, il y a un gars qui s'appelle Régis Galland, le mec qui développe des cartes électroniques pour consoles anciennes. Typiquement, il a développé une carte électronique pour émuler un disque dur sur un X68000, qui est un ordi, bah, d'ailleurs, qu'on verra. On verra sur la convention cet ordinateur. Il est ultra rare parce qu'il est sorti qu'au Japon et surtout ultra cher. Même à l'époque où il est sorti, c'était vraiment destiné à un public extrêmement aisé ou alors tout simplement à des développeurs de jeux vidéo. C'était une bête de course. C'était un truc aux caractéristiques complètement dingues à l'époque. Un micro japonais, ouais, vraiment extraordinaire, quoi, de Sharp. Et donc celui-là, on le verra sur la convention déjà. Déjà rien que de le voir, c'est un truc de ouf parce que le machin, il a un design qui pourrait sortir aujourd'hui en fait, tu vois, un design à la verticale style PlayStation 5 quoi. Donc le design est fou en fait de la machine et puis les perfs étaient folles à l'époque et les jeux sont encore vachement jolis dessus quoi. C'est vraiment t'as quasiment le niveau arcade de l'époque qui était la vitrine technologique indépassable dans les années 80-90.
Bah moi, on me disait justement que ces jeux-là étaient d'abord en proto sur X68000 pour les équipes de dev et ensuite portés sur arcade.
Ouais, c'est ça. Donc ça servait a priori de je veux pas dire de bêtises là, je suis pas expert du domaine, mais a priori j'ai aussi entendu parler du fait que c'était une plateforme de développement dans ces années-là en fait pour les jeux d'arcade, ouais, clairement. Donc ça, on verra l'ordi, et puis on verra bah, la carte électronique qu'il a fait pour émuler le disque dur. Donc du coup, bah, tu te retrouves avec disque dur ou lecteur disquette. Donc on pourra voir bah, plein de jeux de l'époque, parce que du coup, il a chargé son disque dur avec plein de jeux, pour voir vraiment concrètement comment ça tournait. Et puis, il a aussi développé des trucs pour une console qui s'appelle la PC Engine. Il a un énorme développement sur PC Engine, et notamment, il y a des tas de problèmes. En fait, la PC Engine, c'est la première console qui a été dotée d'un lecteur de CD-ROM. Donc on avait des jeux avec la musique au son CD, quoi, ce qui était dans les années 80 complètement dingue.
Ah bah ça, ce qui était de la science-fiction, ouais.
Si je dis pas de bêtises, c'était sorti fin 80, ça, enfin faut que je vérifie ça, ou vraiment
89, début, quelque chose comme ça.
Ouais, je pense, ouais, tout à fait. Alors faut voir pour le CD-ROM, parce qu'il y a la console et le CD-ROM, et ils sont pas forcément sortis.
Alors la console 87 et le CD-ROM 89, ça je peux te le dire, je l'ai à la maison.
Voilà. Donc t'imagines, si on est même pas en 90, t'as un lecteur CD-ROM sur ta console. Donc c'est NEC qui faisait ça, ils étaient grave en avance. Et effectivement, hélas, aujourd'hui, il y a beaucoup de lecteurs qui sont HS. Les lecteurs sont irremplaçables parce que bah, c'est Sony qui les faisait. Et on ne trouve plus du tout ce modèle-là, même pas des équivalents sur AliExpress et compagnie, où ils ont quand même pas mal de pièces détachées. Donc du coup, bah, cette personne-là, ce Régis, a développé une carte électronique où tu remplaces le lecteur CD par ça. Et puis, bah, dedans, tu mets une carte SD. Et tu vas chercher, bah, tu as un menu au démarrage de l'engin, quoi. Et puis sur ta télé, tu vois la liste de tes jeux au format CD qui sont sur la carte SD, et tu les démarres, et la console, il voit que du feu, en fait. C'est assez dingue. Et donc, ça, c'est Régis qui l'a développé, qui l'a codé de A à Z, et qui a codé. Il a un trip aussi, c'est de refaire des consoles. Donc, genre, il a refait une Game Boy, refait une Super NES, refait une PC Engine, forcément. Refait aussi une. Je sais plus, enfin, il en a fait une Famicom, voilà. Ça, il a fait 4 consoles. De A jusqu'à Z, basé sur des processeurs reconfigurables qui s'appellent des FPGA.
Mais ça tombe bien, puisque tu m'en parles. Moi, en plus de ça, ma PC Engine, en plus en ce moment, elle est down. Il se trouve qu'il va y avoir des stands de réparation de consoles. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Ah, il est très bon, quelle transition formidable. Voilà, ouais, c'est clair, on a deux réparateurs de consoles. Alors, Il y en a un, il veut jamais qu'on dise qu'il est réparateur. Bon, moi, je suis désolé, quand tu changes les condensateurs parce que la console, elle marchait pas et qu'à la fin, la console, elle marche, moi, c'est ce que j'appelle un réparateur. Mais bon, bref, on va respecter son choix. Il se voit plutôt comme optimisateur et modeur de console rétro, ce qu'il fait aussi, hein, pareil. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai qu'il fait, ça aussi. Hein. Donc, c'est JB de Game by Games. Donc, on va commencer par la partie rétro. Alors lui, il ne fera rien sur place. Par contre, il fait plus. C'est à partir de maintenant, à partir de ce salon, il décide de plus rien faire sur place parce que c'est un gros boulot de déplacer tout l'atelier. Par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les commandes sur place et il montre sur place de manière concrète ce qu'il fait en termes d'optimisation. Donc, optimisation, ça peut être ce qui s'appelle de l'overclock. En gros, tu augmentes la fréquence du processeur de la console d'époque et les jeux qui ramaient à certains endroits, bah, ils rament plus à ces endroits. T'as ça qui est faisable pour Mega Drive ou Neo Geo. Il y a après les fameux modes 50-60 Hz. Bon, ça, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, quand tu habitais en Europe et que tu jouais aux jeux vidéo dans les années 80-90, tu étais un peu le dindon de la farce parce qu'il y avait des problèmes de standard vidéo qui faisaient que les jeux vidéo, toutes les consoles quasiment avaient une image écrasée parce que bah, les Américains et les Japonais avaient moins de lignes horizontales que nous. Voilà, donc déjà, tes proportions, elles étaient complètement pétées parce qu'évidemment, ils avaient le même ratio, mais sauf qu'ils avaient plus de lignes, ils avaient moins de lignes. Donc, quand tu faisais tenir leurs lignes dans nos télés à nous, bah, du coup, tu te retrouvais avec des bandes noires dégueulasses en haut et en bas de l'écran et le jeu qui n'avait plus du tout les bonnes proportions puisque à largeur égale, l'image était moins haute. Donc, du coup, bah, les ronds, c'était des ovales et tout. Enfin, tout était pété. Et si avec ça encore, ça aurait pu aller. Mais en plus, eux, ils étaient en 60 images secondes et nous en 50. Et du coup, bah, les jeux étaient ralentis chez nous pour matcher sur le 50 images secondes. Donc, du coup, bah, toutes les consoles européennes, elles ont ces problèmes-là. Et en fait, lui, en gros, à partir d'une console européenne, il va te débloquer tout ça pour retrouver le standard d'origine, c'est-à-dire comment le jeu il était fait pour fonctionner à l'époque quand il a été développé par les équipes bah, Nintendo, Sega et compagnie. Donc, avec du plein écran, avec la vitesse d'exécution normale de 60 images par seconde et tout ça. Donc voilà, tu files ta console et il te la refait à ce niveau-là. Et comme je dis, il fait aussi de la réparation, typiquement sur la console portable de Sega, la Game Gear ou Game Gear, comme vous voulez, qui est tout le temps en panne à cause de ses condensateurs qui étaient de mauvaise facture, et ben là, il change les condensateurs et ta console, elle repart, quoi. Donc voilà, il fait plein de trucs. Et donc, il fera des démos sur place de l'overclock, du mode 60 Hz, tout ça, et d'autres trucs encore, parce qu'il fait plein de trucs pour plein de consoles. De toute façon, il y a toutes les infos sur son site. Donc ça, c'est pour ce qui est de la partie rétro et pour ce qui est de la partie moderne. On a Clinique de la console qui sera là. Donc c'est un ancien collègue de travail qui était développeur et qui s'est mis dans l'électronique. Mais en fait, ce que j'ai appris, c'est qu'il était de l'électronique. Et en fait, il s'était mis dans le développement par la suite. Donc en gros, il revient à ses premiers amours et lui, il va proposer bah, des réparations de PS5, de PS4, de Switch. Typiquement, tu sais, quand t'as ton port HDMI ou USB-C qui est arraché ou quoi, bon ben bah, voilà, c'est la panne la plus fréquente hein, en général. Donc bah, lui, il te refait ça tout bien et puis il pourra faire des trucs sur place ou sinon, pareil, emporter les consoles et les ramener, ce qui fait que ça économise au moins les frais de port dans un sens. Sachant que le gars est de la région, voilà, soit tu vas rechercher ta console chez lui, soit il te la renvoie par la poste, quoi.
Les manettes aussi ?
Possiblement, ouais. Ouais, franchement, ouais, faut voir. Mais c'est vrai qu'on n'a pas. Faut que je fasse un live avec lui, c'est obligé. Au moins avec les réparateurs, quoi, pour lancer un appel aux gens à ramener leur console, en fait, tout simplement.
Pour finir ouais, d'expliquer dans les détails, effectivement, ce qu'ils font, parce que c'est vrai que ça prendrait une émission entière, en fait, juste à expliquer ce qu'ils font. C'est vrai que c'est
un peu. Ah, bah oui, il faut faire ça avec le gars en question. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur JB de Game by Games, ça, j'en fais une à chaque intro de convention. Et normalement, tu vois, ce que je fais une vidéo chaque soir sur la chaîne, la fameuse chaîne YouTube dont tu parlais tout à l'heure. Avec chaque invité, mais là honnêtement pas le temps, du coup bah, je fais vraiment que les trucs méga importants. Typiquement quand il y a un appel à ramener aux gens à ramener du matériel sur place, là je vais le faire, quoi, parce que pour le coup on est au-delà de l'information, c'est-à-dire il faut pas que la personne elle arrive sur le salon en se disant ah bah mince, si j'avais su tu vois j'aurais ramené ma console, donc ça c'est pas ouf parce que...
Voilà, je vais juste en terminer sur le contenu, parce que je vois aussi le nombre d'assos. Alors, on va pas tous en parler, mais on va au moins en citer quelques-uns. Il y a les copains de la dose, par exemple. Ouais. Il y a du lourd aussi, avec, tu me parlais de Régis Galland, mais il y a aussi Frédéric Reynal qui est annoncé.
Ouais, tout à fait, ouais. Ben, Frédéric Reynal, qui est à l'origine de Alone in the Dark, qui est lui-même à l'origine le jeu, par inspiration de Resident Evil. Ça, ça a été vraiment dit officiellement par Mikami. Hein. Il a carrément balancé le truc en disant que oui, bah effectivement, c'est bien Alone in the Dark qu'on a regardé pour faire Resident Evil. On l'a amélioré, puis on a fait ça. Ok. Tu te dis, purée, c'est quand même chaud. Et donc, bah, en plus, il développe actuellement sur console ancienne. Alors, le projet est un peu secret, donc je ne peux pas en parler. Mais il est complètement dans le sujet du rétro actuellement, notre ami. Frédéric Reynal.
On a complètement oublié de citer Squirtune Magician qui va revenir du Japon en plus.
Ouais, alors lui, c'est une dinguerie en fait, c'est une dinguerie ce mec-là. C'est un compositeur de musique, mais il fait plein de trucs en fait. Il fait aussi des vidéos en IA, etc. C'est un très très grand artiste. Moi, je m'écoute en boucle son dernier album là, mais je déconne pas en fait. Pour moi, c'est du niveau de Daft Punk en fait, vraiment, c'est ultra bon. Enfin, ouais, si vous tapez Squirtune Magician sur Spotify, vous regardez un album où il y a une femme japonaise en fait sur la pochette. Ça, il est génial, vraiment génial.
Il fait très city pop. Enfin, oui, il explore justement la city pop à sa sauce, exactement.
Ouais, ouais, c'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un... moi, enfin, la qualité de l'album, elle me sidère en fait, vraiment. Et donc lui, bah, il fait aussi les montages pour Benzaï. Il fait les vidéos IA pour Benzaï, qu'il intègre dans des décors et tout ça. Enfin, bon, bref, il fait plein de trucs pour.
Je l'ai vu tenir la caméra pour SNK aussi. Enfin voilà.
Ouais, ouais, enfin il fait voilà, il fait énormément de choses au plan artistique, il est extrêmement vivace, voilà, et puis bah il passera sur le salon nous faire un petit coucou. Donc ça fait très plaisir.
On a tourné autour du sujet depuis le début en réalité, mais c'est de la folie toute la préparation en ce moment. Il paraît qu'il y a pas, je veux dire, tu vas avoir un monde bah, que tu vas peut-être devoir refuser en plus. Enfin explique-nous, il y a vraiment beaucoup de monde qui va venir dans cet événement.
Ouais. Ouais. Alors, évidemment, on ne peut pas savoir à l'avance, c'est impossible. Tu as les pré-réservations. Donc là, on est à plus d'une centaine de pré-réservations, c'est-à-dire, je crois, 120 au moment où je parle, ou 130, je ne sais pas. Je pense qu'en fin de parcours, on n'arrivera pas loin des 200, à mon avis, 200 pré-réservations. Et là, je parle vraiment que des gens qui viennent. Je ne parle pas, j'ai enlevé tout ce qui est team, staff, bénévole et tout, parce qu'on est vraiment une armée. Donc, je ne voulais pas faire de faux calculs et d'annoncer des chiffres qui sont complètement bidonnés par le staff, quoi. Parce que s'il y a le staff, je rajoute quasiment 50 personnes en fait, enfin plus de 40 quoi. Donc du coup ça fausserait quand même pas mal l'info que je donne, je préfère être honnête. En fait ce qui se passe c'est que justement dans cette team bénévole, on a pas mal de retours de bénévoles qui disent « Ah purée, j'ai un copain qui m'a appelé, qui en plus qui a pas spécialement la folie du jeu vidéo rétro, mais qui a vu passer l'info d'une manière ou d'une autre et qui m'a dit « Ah, t'as vu, il y a un truc qui se passe à Givor, machin, ça te dirait d'y aller ?» Et puis bon, bah du coup, le mec, il répond « Bah oui, mais je fais partie de la team, quoi, du coup, donc je vais y aller. » Voilà, donc on a pas mal de retours d'infos qui nous laissent penser que la com a été bien menée et que l'information a bien circulé, en fait, tout simplement. On a été présent aussi dans plein de McDo, on a été présent dans plein de Micromania. On a une grosse présence sur Facebook aussi en termes de
com. Vous êtes énormément bougé pour faire connaître l'événement, quoi, voilà.
Ouais, non, mais là, c'est un truc de fou, en fait. C'est allé bien, bien, bien au-delà de Polygon, notamment sur la partie du terrain. Parce que là, comme c'est à Givor, comme c'est mon fief, entre guillemets, c'est vachement plus facile quand tu veux poser des affiches, avoir des contacts avec la mairie, etc., etc. C'est ultra fluide, quoi, tu vois. Donc, du coup, on va se retrouver avec 17 affiches de rue, enfin 17 x 2, parce que c'est recto verso. Tu sais, sur les panneaux d'affichage libre de la ville, on a trois énormes banderoles. Donc, il y en a deux qui sont déployées de plus de 5 mètres. 5,50 m qui sont déployés à deux endroits stratégiques de Givor, plus un endroit stratégique à Mornant. Plus, on a aussi des panneaux rigides, tu sais, un peu comme les cirques, là, tu vois. On en a entre 20 et 40, enfin, je pense que je vais en mettre qu'une vingtaine là, pour cette édition, qu'on va dispenser un peu partout. Là, je suis en contact avec la police nationale, la municipale, pardon, pour que ça ne les dérange pas, que tout aille bien et tout ça. Et même la com sur le terrain, on n'a jamais fait ça en fait.
Eh ben, ça va donner en plus de ça donc un événement qui va être encore plus gros que les précédents. Et en tout cas, c'est vraiment tout ce que je te souhaite d'avoir justement, de passer de la salle Roger Tissot finalement à une salle encore plus grosse dans le coin. J'imagine, tu vas rester toujours dans du côté de Givor pour cet événement-là.
Alors bon, déjà évidemment, toute la suite sera conditionnée par ce qui va se passer dans 2 semaines. Enfin, pas dans 2 semaines, dans 10 jours, pardon. On est le 2, bon, ça commence le 10, dans 9 jours. Donc tout va être conditionné par ça. Après, deuxièmement, il y aura quand même celle de Lyon les 8 et 9 novembre. Alors là, à Lyon, donc là, il y a 700 mètres carrés et en termes d'invités, il va y avoir du gros lourd. Ça, je peux déjà te le dire. Des gens vraiment très intéressants à voir de par ce qu'ils ont fait, de par leur carrière et de par ce qu'ils même continuent à faire aujourd'hui. Donc ça va être des... Bon, pour moi, c'est des personnalités majeures du jeu vidéo, mais qu'on ne voit quasiment pas en convention. Donc ça, c'est assez important. Et je pense déjà entrevoir plus ou moins la suite. C'est-à-dire que je vais retourner sur... Enfin, je ne vais pas retourner parce que pour l'instant, je n'y ai pas encore été. Mais je vais aller sur un rythme plutôt d'une par an plutôt que deux par an parce que c'est infernal, en fait. Enfin, on ne se rend pas compte, mais le boulot de préparer un truc comme ça, c'est complètement dingue. En fait, tu as quasiment deux mois où tu fais que ça. Et donc, du coup, l'idée, ce serait, ouais, si ça se passe bien, j'y vais. On va y aller avec Dessy. L'idée, ce serait de faire que à Givors, du coup, toutes les autres années. Et de ne plus faire nécessairement à Lyon, à moins d'avoir une opportunité incroyable dans une salle incroyable ou je sais pas quoi, là, pourquoi pas. Mais c'est quand même vachement plus facile d'être chez soi, tu vois, si t'as un petit truc à rechercher à la maison ou quoi que ce soit. Là, je vais pas me faire un aller-retour Lyon, un aller-retour Givors-Lyon, là, t'en as pour une heure de bagnole, quoi, direct, quoi, tu sais, t'en as pour entre 20 et 30 minutes l'aller, pareil le retour. Donc, du coup. Effectivement, ouais, d'être chez soi, c'est plus facile pour tout, en fait, pour tout, et y compris pour la COP, comme je le disais tout à l'heure.
Pour terminer, juste avant de se quitter, comment toi, ta passion pour le rétro, elle a commencé? Moi, à titre perso, c'était simplement parce que ben, je prenais les jeux, finalement, dont personne ne voulait. Alors déjà, ils étaient pas chers, mais il y a aussi le fait que j'en avais des souvenirs incroyables et que c'était à l'époque où plus personne n'en voulait. Mais toi, comment ouais. Ça a commencé?
Ouais, alors vraiment, si on se limite au rétro gaming. En fait, franchement, pour moi, le starter, ça a vraiment été la NES et la SNES Mini, hein, vraiment. Là, il y a eu le déclic qui a réveillé le truc, quoi, si tu veux. Parce que, alors moi, mes anciennes consoles, je les ai jamais bazardées, en fait. Je les ai toujours, tous mes jeux de l'époque, je les ai toujours. Mais voilà, j'étais pas spécialement à fond dedans, tu vois. C'était dans le grenier, j'y tenais comme à la prunelle de mes yeux. J'avais déjà, même avant la SNES Mini, une belle vitrine chez moi avec mes pièces préférées dedans, tu vois. Mais clairement, la NES et la SNES Mini, ça m'a réveillé le truc. Après, il s'est passé aussi autre chose, c'est que moi, j'étais journaliste pendant 10 ans pour Clubic.com et en 2017, donc c'est-à-dire vraiment quand la NES Mini sort, du coup, j'arrête ce boulot de journaliste et j'ai envie de continuer, tu vois, à faire un média sur Internet, donc c'est-à-dire avec YouTube. Pas du tout pour en vivre, hein, mais parce que voilà, je suis gros fan de vidéo. J'ai toujours baigné dans la vidéo, même quand j'étais gosse, mon père, il avait du matos vidéo, enfin, depuis tout petit, tu vois, on était très, très équipés à la baraque. Ouais, mon père, il était tech, mais un truc de fou. Mais par contre, anti-jeu vidéo, tu vois, c'est paradoxal, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, j'ai toujours baigné dans la tech et donc, du coup, je pouvais pas m'arrêter de faire des vidéos, quoi, c'était juste pas possible. Et donc, j'avais déjà commencé par ouvrir une chaîne au travers de ma boîte pour faire des tutos informatiques, parce que comme j'ai une boîte d'informatique, en gros, la matière m'arrive toute seule, puisque y a des PC qui arrivent en permanence avec des problèmes. Donc, faire les vidéos, ça permet d'aider les gens qui sont pas forcément à Lyon et qui peuvent pas forcément faire appel à mes services. Ils regardent les tutos et comme ça, ils peuvent se dépanner eux-mêmes. Après, du coup, au début, dans cette chaîne, je mettais un peu tout, tu vois, je mettais les tutos, c'était un peu un fourre-tout. J'avais pas bien compris le concept de YouTube qui est vraiment que t'es obligé de segmenter au maximum et même dans une même thématique, t'es obligé de segmenter selon l'angle de tes vidéos. Tu vois bien, le joueur du grenier, il a bazar du grenier et joueur du grenier selon le type de contenu qu'il veut mettre. Donc c'est ultra ciblé en fait YouTube, hein, vraiment ultra ultra ciblé. Et donc du coup après, je crois que c'était en 2019, j'ai scindé cette chaîne en deux partie principale, donc la partie full tuto et la partie full jeu vidéo rétro, où j'ai remigré toutes les vidéos de jeux vidéo rétro sur la chaîne qui s'appelait Rétro Polo à l'époque, donc maintenant Polo Warp Zone. Et donc là-dessus maintenant, voilà, il y a un canal pour les jeux vidéo anciens et un canal pour les tutos, voilà, tout simplement. Et puis là, de fil en aiguille, au travers de la chaîne, j'ai rencontré énormément de monde, mais vraiment énormément. Et puis, en fait, les chaînes, l'une comme l'autre, ce sont avant tout des vlogs, en réalité, tu vois. Donc, typiquement, la chaîne de tuto, c'est un peu un vlog des dépannages de la société. Et après, la chaîne Polo Warp Zone, c'est un vlog de l'entretien de ma collection, avec des tutos de réparation, de consoles, ou avec des découvertes que je fais sur, par exemple, des zonages sur les Gun Dreamcast. Tu vois, j'ai publié une vidéo il n'y a pas longtemps. Des trucs que, enfin, c'est hallucinant, en fait, des trucs que quand tu as vécu l'époque à fond dans les années 80-90, ce qu'il y a de génial, en fait, avec ces consoles-là, c'est que tu arrives encore à en apprendre aujourd'hui, tu vois. il y a tellement de spécificités, il y a tellement d'accessoires, il y a tellement de particularités. Là où tu vois les consoles modernes, bah, elles ont quasiment plus d'accessoires, donc ça déjà, bah, tu peux pas apprendre des trucs sur les accessoires, il n'y en a plus, ou quasiment pas. Et puis les spécificités par région, bah, il n'y en a pas, tu vois. Enfin, c'est toutes les mêmes, quoi, tu vois. Toutes les consoles, qu'elles sortent au Japon, machin, en Europe, aux États-Unis ou quoi, elles ont le même design, elles ont le même nom, elles ont le même machin. Alors que bon, ce qui va être génial justement sur Warp Zone, là, à Givor, c'est que tu vas pouvoir voir, même quand tu as connu les années 80-90 en Europe, bah, tu vas pouvoir découvrir des consoles qui étaient leur équivalent au Japon. Voilà, qui n'ont pas la même gueule, pas le même nom. Typiquement, la NES, bah, c'est la Famicom au Japon, elle n'a pas du tout le même design. La Master System, bah, c'est la Mark III au Japon, elle n'a pas du tout le même design. Et des trucs en plus et des trucs en moins. Enfin, il y a plein de spécificités. Tu vois, genre sur la Famicom, tu as un micro sur la manette 2. Sur la NES, ils ont dégagé le micro pour nous. Donc, tu vois, dans Zelda, tu avais des trucs où tu devais parler dans la manette. Bah, là, tu peux plus. Enfin, ils l'ont enlevé dans notre Zelda, nous. Donc, il y a plein de trucs qui sont vraiment rigolos comme ça. Ou des accessoires qu'ils ont eu que là-bas. Par exemple, il y aura un hyper shot sur le stand de tir qu'on va mettre en place. On va mettre un stand de tir avec plein de jeux de tir différents, avec des accessoires, hein, de tir, ce qui a quasiment disparu aujourd'hui. Je sais qu'ils en ont fait un sur PlayStation 4, mais aujourd'hui, enfin sur Play 5, ils l'ont jamais ressorti, tu vois, l'espèce de gun là, très bien d'ailleurs, qui marche très bien. Mais non, enfin aujourd'hui, vu les enjeux commerciaux et financiers, les mecs, ils n'osent plus rien faire, en fait, tu vois. Il faut vraiment réutiliser la recette qui marche vers l'infini et au-delà, tu vois. Il y a plus de je dis pas qu'il y a plus de créativité, il y en a encore avec notamment le jeu indépendant, mais par rapport aux années 80-90, la prise de risque, elle n'existe plus, hein, à part pour les indés.
C'est un peu dans ce sens-là que je vais t'emmener pour la fin, justement. C'était aussi une ère de bricolage, c'était aussi une ère où, en fait, tout était à inventer. Donc, forcément, s'il y avait un inventeur avec une dinguerie, eh ben, on le laissait faire d'une certaine façon parce qu'il y avait potentiellement de la maille à se faire. Donc, il y avait peut-être plus d'enthousiasme et de positivisme dans cette époque-là du jeu vidéo qu'aujourd'hui où c'est vraiment, je trouve, assez cynique. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi ?
Ah bah je suis totalement d'accord. Non mais ça c'est factuel, hein. C'est pas une histoire de c'est pas parce qu'on est des vieux cons qu'on dit ce genre de choses, c'est factuel. Tu regardes le nombre d'accessoires, bah comme je le disais tout à l'heure, tu regardes l'originalité, tu vois, enfin typiquement les AAA, tu regardes, tu prends le premier Assassin's Creed, tu prends le dernier. Je suis pas en train de te dire que c'est les mêmes jeux, faut pas déconner, mais je veux dire en termes d'innovation, c'est quand même chaud, quoi. C'est toujours voilà la recette qui marche bien, on va la reprendre et puis on va presser le citron jusqu'au maximum. Après, heureusement, hein, t'as encore des pépites qui sortent un peu de partout, hein, quand même, malgré ça, dans la monotonie ambiante, on va dire, entre guillemets. Mais clairement, dans les années 90, en fait, tout était à faire, comme tu l'as très justement dit, et on a vraiment vécu le Far West du jeu vidéo, tu vois. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. C'était vraiment les mecs, ils avaient une idée, ils le faisaient, en fait. C'est ça qui est hallucinant. Je veux dire, sur NES, tu vois, tu avais une espèce de moto gonflable avec un capteur de mouvement pour quand tu l'inclines dans les virages où tu te mettais à cheval dessus. Tu avais une espèce de punching ball gonflable sur NES. Tu avais le fameux hypershot, donc le pistolet mitrailleur là, que je vais montrer, où tu as un seul jeu qui est compatible avec. Mais le truc, c'est un pur Uzi avec un effet de recul, tu sais. Quand tu tires, tu as même un micro... un haut-parleur dans la mitrailleuse où t'entends qui te permet d'entendre les zombies hurler quand tu les dégommes, tu te dis mais what ? Enfin, les trucs, il est sorti dans les années 80, quoi, tu vois. Pour avoir un micro sur ta manette, il a fallu attendre la Wii, quoi. C'est un truc de fou. Donc, les mecs, ils y allaient, quoi, en fait, ils y allaient. Et puis, tu vois, les gars, en fait, ils étaient ultra limités techniquement. Et du coup, ils jouaient d'ingéniosité pour inventer des trucs, mais c'est des trucs de l'espace. Tu vois, du genre, sur NES, tu avais un machin pour enregistrer tes parties sur une cassette audio. Ça enregistrait les mouvements que tu faisais à la manette, tu vois, mais sous forme de signal audio. Et après, quand tu te repassais la cassette, ta console, elle faisait les mêmes mouvements de la manette parce que c'était plugué sur le port manette, le truc. C'est un truc de malade, quand même.
Tu vois, mais les contraintes techniques ont décuplé la créativité, quoi.
Voilà, c'est ça. Alors que maintenant, il n'y a plus aucune contrainte technique. En gros, tu as la patate que tu veux dans la console, tu as tout ce que tu veux, tu vois. Mais aujourd'hui, sur PlayStation 5, il n'y a aucun appareil officiel vendu pour le particulier qui te permet d'enregistrer des combos de mouvements avec ta manette et puis après à cliquer sur play pour les refaire dans le jeu, tu vois. Ça n'existe pas. Je veux dire, ça n'existe pas en 2025 ce que tu avais dans les années 80, en fait. C'est quand même un truc de fou. Et pareil, tout ce qui est jeu de pistolet, tu vois, les gamins à chaque fois, quand on met des expositions avec des jeux de pistolet style Dreamcast avec House of the Dead, des trucs comme ça, les gamins, ils sont comme des dingues, alors qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Tu vois, il y avait des trucs sur Wii, mais typiquement sur Switch, des jeux où tu tires comme ça, où tu mets ta Wiimote dans un pistolet pour tirer, je vois pas. Il y en a peut-être, hein, il y a peut-être des choses qui m'échappent, mais là, comme ça, je vois pas.
La Wiimote, on va dire que c'est la dernière.
Ouais, c'est la dernière, mais ça date de quand, voilà. Ça, maintenant, la Wii, elle est partie
il y a 15 ans.
Ouais. Voilà, tu vois, y a ça, en 15 ans, t'as, à part le pistolet que tu avais sur la Play 4, pour la VR, attention, et qui marche que pour la VR, donc c'est quand même ultra limité, quoi, tu vois, c'est-à-dire le mec qui veut pas de VR, il a pas le pistolet. Il y a rien qui existe, en fait, à ma connaissance, donc c'est quand même fou, quoi. T'as vraiment, en fait, c'est la... En fait, on appelle ça, tu vois, la... Enfin, pour moi, ça se met dans la même case que la mise à jour récessive. Tu vois, quand tu as des mises à jour d'appareils qui t'enlèvent des fonctionnalités, bah là, c'est pareil, en fait, plus tu avances dans le temps et moins tu as de trucs, en fait. Tu vois, je veux dire, normalement, c'est l'inverse, en fait, à la base.
Et c'est là où on en vient au cynisme, c'est que pour une boîte qui est là pour brasser du blé, bah, à la base, ou en tout cas qui voit que les tableaux Excel, et ben pour eux, c'est plus de coûts de maintenance qu'autre chose. Enfin bref, on est sur un autre monde, en fait.
Bah, oui, voilà, c'est le market qui dirige. Et si, par rapport à ce qu'on va investir, ça ne va pas rapporter finalement suffisamment et tout, du coup, on ne fait pas. Bon, alors ça, c'est vrai que ça, tu peux te dire ça pour quasiment n'importe quel accessoire, quoi, tu vois. Mais tu as encore des boîtes qui ont encore ce côté Far West du jeu vidéo ou en mode start-up style Nintendo, qui va quand même te sortir, tu sais, comme le jeu basé sur des éléments en carton que tu devais monter sur la Switch, ou le Ring aussi, qui est incroyable. Enfin, tu vois, aujourd'hui, il n'y a plus que Nintendo qui va s'aventurer dans des trucs comme ça. Et je pense qu'ils ont compris un truc, c'est que même si c'est pas rentabilisé, ou même si c'est peut-être à perte, ils ont compris la chose suivante, c'est que ça contribue à l'image de la marque, en fait, tu vois. Ça contribue au fait de te dire, Nintendo, ils ont encore de la ressource, ils ont encore des idées, ils sont encore originaux, etc., etc. Et ça, c'est super important, en fait, je pense. On est vraiment... C'est aussi du marketing, en vrai, tu vois. Alors, après, le seul truc dont on n'a pas trop parlé, si je puis me permettre, du coup, Damien, c'est le côté gaming au sein de la convention, qui est quand même... Alors, je dis souvent le cœur du réacteur, mais en vrai, le cœur du réacteur, c'est déjà de pouvoir se rencontrer et discuter ensemble. Alors, au total, dans la salle, on va avoir donc plus 70 machines, et on a mis un maximum de postes en 4 joueurs. Donc l'idée, c'est d'occuper un maximum de monde. Et alors, l'idée, elle est double. C'est un, occuper un maximum de monde, évidemment. Mais de deux, c'est aussi occuper un maximum de monde dans la convivialité. C'est-à-dire que quand tu as des familles qui viennent, tu vois, des fois, on met des postes en 4 joueurs, et puis tu as papa et maman qui mettent le petit garçon et la petite fille à jouer. Et nous, des fois, on vient, et puis on leur dit, mais enfin, vous savez, vous pouvez jouer avec, quoi, en fait. Donc du coup, tu te retrouves avec toute la famille qui joue. Parce que 4 joueurs, et puis aussi ça peut être le fait de mixer des gens qui se connaissent pas. T'as un couple qui arrive à 2, un autre couple à 2, allez-y, faites-vous un GoldenEye à 4, ça va bien le faire. Et donc l'idée, c'est la convivialité. Ça, c'est pareil, c'est un truc aussi qu'on a de moins en moins avec les consoles récentes, où tu vas jouer sur internet en réseau avec un micro casque et tout ça, et puis le mec, en fait, il est pas dans la même pièce que toi avec qui tu vas jouer, enfin les gens avec qui tu vas jouer. Ça, c'est pour moi pas du tout la même chose que d'être à 4 autour d'un téléviseur, ou à plus, hein, tu vois, mais à jouer avec une console. Et on se rapproche beaucoup plus, à mon avis, du jeu de société dans ce cas de figure, tu vois, en termes de convivialité et tout. Pour moi, faut être présent physiquement dans le même endroit si vraiment t'as envie d'avoir ce côté où tu t'éclates, convivial. Tu as Mario Kart, tu lances une banane à un gars, le mec, il est à côté de toi, donc tu déconnes avec lui, tu rigoles et tout. Il y a des échanges, il y a des sourires, il y a des choses qui passent, en fait, tu vois. Et ça, c'est ces valeurs-là qu'on a envie de transmettre aussi au travers de la convention. Et donc, sur l'ensemble des machines, on est au dernier compte, on est à 170 joueurs possibles simultanément dans la salle. Alors évidemment, pas sur le même jeu, justement, je parle pas du tout de jeux en réseau, c'est des jeux multijoueurs local. Donc, mais selon nos estimations, quand on aura fini vraiment d'implanter toutes les machines, parce qu'il y a aussi des gens qui viennent avec leur console. Typiquement, on a beaucoup d'invités qui vont venir avec leur console. On a un développeur de jeux récent sur console rétro, notamment la Mega Drive, qui utilise le fameux kit de dev de Steph dont je parlais tout à l'heure. Eux, ils vont venir avec 2-3 consoles pour montrer leurs jeux, etc. Donc, en comptant toutes les machines des autres, et il y en a vraiment plein qui vont en ramener qui ne sont pas les nôtres, on va monter, je pense, sans problème à peut-être 80 consoles pour quasiment 200 joueurs simultanément dans la salle.
Et pour, voilà. pour une estimation de visiteurs qui est à combien, plus ou moins?
Alors, moi, au début, je tablais sur 500. Donc je t'avoue que voilà, pour Givor, j'avais pas de grandes attentes à ce niveau-là. Mais sachant qu'on est déjà à un cinquième de l'objectif initial juste avec les précommandes, alors que normalement il y a plein de gens qui précommandent pas. Surtout là, on vise vraiment le grand public. Hein. Attention, moi je vise pas nécessairement uniquement les fans de jeux rétro. Moi j'ai vraiment envie aussi de faire découvrir notre passion à des gens qui connaissent pas. Donc ça veut dire grand public. Et puis des familles avec des enfants et tout ça. Donc du coup, ouais, moi je tablais sur 500, mais selon des estimations externes à nous, de gens qui font des conventions et qui ont regardé la com qu'on a fait, plusieurs personnes, donc extérieures à nous, estiment à peu près à 1000 personnes minimum. Voilà. Mais ça peut techniquement être plus. Ça peut être plus, ça peut aussi être moins, hein. Ça peut être finalement les 500, et puis voilà, hein, basta, sur le week-end. Mais vu, enfin voilà, moi je te dis une com' comme ça, j'ai jamais fait. Sur Polygon, on était entre 1300 et 1100. Sur la 1300 sur la première en refusant du monde par contre et 1100 sur la deuxième sans refuser du monde. Là, on a des gros soucis de com sur la deuxième et gros soucis de grève SNCF et de plein de problèmes, donc du coup ouais, c'était très compliqué. C'est dommage du coup parce que bah, le pianiste, il y a beaucoup de gens qui auraient pu en profiter et qui n'en ont pas profité bah, parce que tous ces problèmes. Donc ça c'est malheureusement très dommage, mais c'est comme ça. Mais le pianiste, on le fera revenir certainement un jour, vraiment. C'est un très bon copain, c'est un copain perso en plus.
Il le mérite. Du coup,
ouais, il le mérite, ouais, il est incroyable. Bon, de toute façon, t'as assisté au show, donc tu sais de quoi on parle, hein. C'est vraiment un truc de fou. Techniquement, après, moi, si je me base sur des chiffres, tu vois, de conventions, par exemple, j'ai un ami qui a fait une convention en Ardèche. Alors tu vas me dire, en Ardèche il y a rien, donc du coup dès qu'il y a un truc les gens ils sautent tous dessus, mais pour te donner une idée, alors lui il avait une salle par contre x2, hein, genre c'était 1000 mètres carrés et il a fait 2500 dans le week-end en Ardèche, tu vois, voilà, donc tout est possible. Bon, je pense pas par contre techniquement qu'on pourra faire 2500 parce qu'on a des problématiques de jauge à respecter, tu vois, donc ça m'étonnerait que sur un week-end, vu la salle, on puisse faire un chiffre pareil. Puis ça dépend aussi de la rotation, tu vois, est-ce que les gens, ils viennent, ils squattent toute la journée ou est-ce qu'ils viennent, ils jouent une heure et ils s'en vont. Ça dépendra de tas de facteurs, mais c'est vrai que nous, on a plutôt une activité à squat quand même en général, hein. Tu vois, tu sais qu'une fois que tu as payé l'entrée, bah, tu peux rester autant de temps que tu veux. Donc, il y a des gens, ils ont envie vraiment de profiter de toutes les activités. Donc, c'est vrai que nous, on est plus dans le cas de figure qui est compliqué, quoi. Où il y a une rotation qui n'est pas forcément ultra forte, quoi. Difficile d'évaluer, mais on a toutes les raisons de penser qu'on fera minimum 1000. Minimum une polygone, quoi, dans ces eaux-là. Très certainement.
Eh ben, je te remercie énormément pour cet entretien. Et ben, du coup, de toute façon, nous, on va se revoir, on va se revoir à la convention. Ben, à mon avis, je vais devoir te. À mon avis, ce qu'on va voir, c'est un polo qui va aller de droite à gauche, de gauche à droite en courant. Mais ouais, effectivement, on est de tout cœur avec toi. Et ouais, c'est une sacrée entreprise, ça, ouais.
この番組は、ラジオカニュー FM 102.2 9時から10時までお送りします。聞いてね!